Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le 10 Shahrivar, 1401 du calendrier iranien, 1er septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe. L'Iran a toujours recherché et souhaité la justice pour tous, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. La relance du plan global d'action conjoint. Joseph Borrell espère parvenir à un accord dans quelques jours. Les forces israéliennes ont tué 2 Palestiniens en Cisjordanie occupée. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi affirme que la République islamique d'Iran est devenue si forte que les puissances hégémoniques ne peuvent pas la faire plier devant leurs dictats et leurs desiderata intéressés. Le président Ebrahim Raisi a déclaré que la République islamique d'Iran a subi de nombreuses injustices au fil des ans, mais qu'en dépit de ces moments durs qu'il a vécus, il a su se rendre fort. Aujourd'hui, il est devenu si fort que le monde entier est bien conscient de son statut élevé sur la scène internationale, a déclaré le président Raisi. Il a ajouté que non seulement l'Iran s'est transformé en une grande puissance régionale, mais encore il a su acquérir une bonne réputation sur la scène mondiale. Le président iranien a déclaré que Téhéran a toujours souhaité et recherché la justice pour tous. Ailleurs, dans ses remarques, le président Raisi a noté que Washington a admis que sa politique de pression maximale contre Téhéran avait bel et bien échoué. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a exprimé mercredi l'espoir qu'un accord sera conclu sur la levée des sanctions dans les prochains jours. Se référant aux négociations nucléaires en cours à Vienne, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a exprimé lors d'une conférence de presse mercredi son espoir quant à la possibilité de parvenir à un accord dans les négociations sur la levée des sanctions dans les prochains jours contre la République islamique d'Iran. Téhéran a placé la vérification de la levée des sanctions et l'obtention des garanties concernant la durabilité de l'accord comme ses principales exigences dans les négociations sur la levée des sanctions et a souligné que seul le retour à l'accord bilatéral en échange de certaines restrictions devrait apporter des avantages économiques tangibles à la nation iranienne. Les forces israéliennes ont tué 2 hommes palestiniens en Cisjordanie occupée dans un contexte de tensions croissantes. L'une des victimes, Yazan Afana, a été abattue lors d'une attaque de l'armée israélienne contre un quartier de la ville d'Al-Beira et la deuxième victime, Samer Khaled, a été tuée par les tirs israéliens lors d'affrontements qui ont éclaté lors d'un raid du régime sioniste contre le camp de réfugiés de Balata à l'est de Naplouse. Ces derniers mois, l'armée du régime sioniste a intensifié ses assauts meurtriers en Cisjordanie occupée, lançant des attaques les plus féroces contre la population locale. Les raids israéliens conduisent généralement à des affrontements avec les Palestiniens protestant contre les exactions du régime israélien. Les tensions restent ainsi vives dans les territoires occupés, alors qu'Israël intensifie la répression contre les Palestiniens. Les forces du régime sioniste ciblent régulièrement et systématiquement les civils en Cisjordanie. Des appels sobres à un accord avec la Russie peuvent être entendus parmi les politiciens européens, mais la Russie doit avant tout se protéger des rechutes, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Lavrov a fait remarquer qu'à un moment donné, les partenaires européens opteraient finalement pour le réalisme. Mais pour l'instant, la Russie devrait se concentrer sur la manière de se protéger et de protéger ses relations avec les pays amis de tout caprice de l'Occident. Les caprices que nous voyons aujourd'hui et ceux que nous verrons peut-être à l'avenir, compte tenu des événements auxquels nous assistons dans la vie politique de l'Europe, des rechutes ne sont pas à exclure. Rien ne peut être exclu, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et enfin, au moins 15 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux membres du groupe Force démocratique alliée, ADF, dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo, ont indiqué mercredi des sources locales. Des militants du groupe ADF ont attaqué mardi des villages de la province de l'Ituri, ont indiqué à l'agence France-Presse des habitants de la région et la société civile. Dans une autre attaque, dans la nuit de lundi à mardi également attribuée au groupe ADF, 10 personnes ont été tuées dans 2 villages de l'ouest du chef-lieu du territoire de Beni, Nord Kivu, a déclaré à l'agence France-Presse le président du réseau d'associations de la société civile de Mamové. Le groupe armé ADF est présenté par Daesh comme sa branche en Afrique centrale. Daesh revendique certaines attaques de ce groupe. Les ADF sont accusés d'être responsables de massacres de milliers de civils dans l'Est congolais et d'avoir commis des attentats en Ouganda. Depuis novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations pour les neutraliser sans parvenir à mettre fin aux massacres de civils. le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, en visite à Moscou, a rencontré mercredi 31 août son homologue russe, Sergueï Lavrov. À l'issue de leur réunion, les deux ministres ont participé à une conférence de presse conjointe pour décrire les différents aspects de la coopération irano-russe dans divers domaines et d'autres dossiers diplomatiques importants. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré « Aujourd'hui, j'ai informé mon homologue russe du message du dirigeant d'un pays européen qui a demandé au président Ebrahim Raïssi d'intervenir au sujet du conflit en Ukraine. Il y a eu des idées et des initiatives pour rétablir la paix en Ukraine que j'ai partagées avec M. Lavrov. La République islamique d'Iran a éclairci sa position envers le conflit en Ukraine au plus haut niveau. » Hossein Amir Abdollahian a ajouté que les questions humanitaires, la situation des prisonniers de guerre et des événements liés à la sécurité des centrales nucléaires d'électricité en Ukraine figuraient aussi au menu de ses discussions avec son homologue russe. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré aux journalistes que la République islamique d'Iran et la Russie souhaitaient aussi développer leur coopération dans divers domaines, dont les relations interbancaires, le tourisme, la pêche, le transit, la coopération parlementaire, la sécurité et la défense. Les ministres iraniens et russes des Affaires étrangères se sont consultés aussi sur la situation générale de la région et en particulier des derniers événements en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et en Irak. Quant à l'Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous avons examiné avec le ministre russe des Affaires étrangères les dernières évolutions de l'Irak. Nous avons des points de vue similaires quant à la nécessité du soutien à Bagdad pour renforcer la stabilité et la sécurité à travers le pays. Nous nous réjouissons du retour du calme au pays ces dernières heures et nous estimons que les divergences en Irak devraient être résolues par des consultations politiques parmi les Irakiens eux-mêmes. » Lors de cette conférence, Hossein Amir Abdollahian a déclaré que la République islamique d'Iran et la Russie ne permettront à aucun pays de s'immiscer dans les projets de coopération économique et commerciale entre Téhéran et Moscou. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que les deux pays sont en train d'examiner la prise de mesures techniques pour que les hommes d'affaires iraniens et russes puissent se servir réciproquement des systèmes de paiement par carte bancaire, MIR en Russie et Chetab en Iran, pour donner un essor aux échanges en utilisant les monnaies nationales iraniennes et russes. Interrogé sur le processus de relance de l'accord nucléaire de 2015, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré « Nous avons récemment reçu le texte des propositions avancées par la partie américaine et nos collègues l'examinent attentivement au ministère des Affaires étrangères. Nous exigeons que l'accord final corresponde aux garanties que nous exigeons de la partie américaine. Nous sommes sérieux pour parvenir à un bon accord solide et stable. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit cesser son approche politisée et se concentrer uniquement sur ses responsabilités relatives aux aspects techniques du dossier. » Interrogé sur la coopération irano-russe en matière de transport, Hossein Amir Abdollahian a déclaré « En ce qui concerne le couloir nord-sud, nous espérons que les travaux de construction et de modernisation des trois itinéraires de ce projet seront bientôt achevés. L'itinéraire oriental a été achevé avec succès le mois dernier pour assurer la liaison ferroviaire entre l'Inde et la Russie via le territoire iranien. Nous travaillons aussi pour compléter l'itinéraire occidental avec le chemin de fer qui doit relier les deux villes de Rasht et d'Astara au nord de l'Iran.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre programme débat, un débat donc politique. Nous allons parler du Sahara occidental, mais pas que. En effet, après l'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont en crise ouverte depuis quelques jours suite à la participation du président de la République sahraoui au sommet Japon-Afrique à Tunis les 27 et 28 août. Loin de s'apaiser, donc la crise prend d'autres proportions. Le Maroc est très mal apprécié l'invitation de la RASD, qu'il a été pourtant en sa qualité de membre de l'Union africaine, donc rien de choquant normalement, et encore moins, le Maroc a encore moins apprécié l'accueil chaleureux réservé à Brahim Ghali par son homologue Kais Saïd, donc président de la Tunisie, qui s'est déplacé lui-même à l'aéroport pour l'occasion afin de l'accueillir. Donc Rabat dénonce là un acte hostile. Il a rappelé son ambassadeur à Tunis pour consultation, ce à quoi la Tunisie a réagi, bien entendu, par le rappel, elle aussi, de son ambassadeur. Alors les choses ne sont pas restées là. Beaucoup de choses se sont passées, des réactions marocaines en réaction directe avec cette invitation. Comme le veut le débat, nous avons préparé un petit reportage qui vous résume la situation actuelle.
Sacré Saïd, tout au long de ces dernières semaines, on a eu droit à moult insinuations disant que la Tunisie était entrée en contact avec Israël, que le niveau des liens commerciaux supposés des deux parties était même en hausse. Bref, que d'une minute à l'autre, la Tunisie allait basculer dans le camp pro-sioniste, quitte à larguer l'Algérie. État résistant de la première heure. Ce scénario, l'antitationniste qui colonise depuis 13 ans le Maroc et qui cherche à en faire autant à la Tunisie, l'avait monté de toutes pièces en représailles à ce coup de grâce algérien qui a consisté juste quelques semaines avant la toute dernière bataille balistique de Gaza en août à inviter la résistance palestinienne à la parade militaire du 60e de l'indépendance algérienne. Au fait, cette manifestation de force pro-Palestine, d'ailleurs peu commentée en Israël, en a bien ébranlé les fondements dans la mesure où elle ouvrait les portes aux coopérations militaires Gaza-AMP. Israël se targuant d'avoir planté ses bases aux portes du Sahara occidental sous le nez et à la barbe des Sahraouis, se vantant de réformer l'armée marocaine à son image, pouvait-il encaisser un pareil coup ? Provoquer le divorce Tunis-Alger sur le front de la résistance maghrébine lui sembla alors l'unique issue. Surtout que la Turquie, en pleine mutation souverainiste, a commencé à amender ses lois, à remettre en cause les accords militaires hérités des frères Abou de le FMI, bref, à tenter de s'éloigner de l'OTAN. C'est dans ce contexte que Saïd, sans doute de concert avec Alger, a joué la méga-carte, celle de la reconnaissance de l'indépendance du Sahara occidental, en invitant Ghali pour que ce Sahara, que convoitent les USA pour son Dakhla et que l'orne Israël pour son phosphate et son sous-sol riche en pétrole et en gaz, ne devienne israélien. Pour l'heure, le Maroc et la Tunisie rappellent leurs ambassadeurs. Le président tunisien entend rencontrer ce responsable du Front Polisario, invité par le président de la Commission africaine au sommet Japon-Afrique, TICAD. Quel qu'il en soit, la diplomatie du gouvernement du Tunis s'aligne avec les politiques de l'axe anti-Israël qui se forme dans la région du Sahara. Surtout que le président tunisien a accueilli Kali et l'importante délégation qui l'accompagnait à l'aéroport.
Alors voilà le sujet de notre débat d'aujourd'hui. En invité, nous accueillons donc M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, et Luc Michel. Bonjour M. Ahmad Rami et M. Luc Michel, ravi de vous voir aujourd'hui sur ce plateau par le biais de Skype et par téléphone. Donc, Monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, à l'heure actuelle, donc, l'Algérie a déroulé le tapis rouge au chef du Front Polisario. La Tunisie a donc confirmé son basculement dans la sphère d'influence algérienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ?
Pas la Tunisie comme pays ou comme peuple, mais le régime tunisien, au contraire, a démontré maintenant qu'il s'est allié sur Israël, sur la politique israélienne dernièrement. Donc le régime tunisien, en réalité, comme tous les régimes, comme le régime marocain, sont soumis à la domination des occupants israéliens. Donc les deux. Mais le Maroc, encore le régime marocain, pas le Maroc, le régime qui aujourd'hui occupe le Maroc est un régime, n'est pas un régime marocain, mais un régime sioniste, juif sioniste. Car celui qui a le pouvoir au Maroc, ce n'est pas le roi qui est drogué et alcoolisé en Europe, qui ne sait même pas ce qui se passe au Maroc. Celui qui gouverne au Maroc aujourd'hui, c'est le sioniste juif André Azoulay, qui dirige le pouvoir au Maroc. Donc Israël occupe aujourd'hui, c'est Israël occupe militairement la Palestine, Israël occupe politiquement, économiquement, idéologiquement, médiatiquement, le Maroc, le régime marocain.
D'accord. Merci, Monsieur Ahmad Rami. On va passer à Monsieur Luc Michel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par Monsieur Ahmad Rami, qui dit que la Tunisie est encore sous la jonction du pouvoir sioniste ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue en regardant l'actualité qui vient d'arriver ces quelques jours ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion-là, Monsieur Luc Michel ?
J'aime tout entier, en particulier la question du Sahara espagnol. Ils sont en train d'échapper à la domination américaine et sioniste. L'hebdomadaire Le Point à Paris écrivait il y a quelques semaines que le Maghreb était en train de basculer du côté russe. Aujourd'hui, les Tunisiens sont en train de s'éloigner de la carte américaine. Ils se rapprochent d'Alger. Ils l'ont prouvé en recevant d'ailleurs les Sahraouis à la réunion du TICAD. Et aujourd'hui, même le Maroc d'ailleurs, c'est ce qui explique que les Américains tentent de radicaliser la position du Maroc vis-à-vis de la Tunisie et d'Algérie. Même le Maroc est en train de s'éloigner puisqu'ils ont refusé de condamner la Russie à la dernière réunion des Nations Unies consacrée aux sanctions. Je ne partage donc absolument pas cette opinion. C'est au contraire un vent d'espoir qui soulève tout le Maghreb, qui est en train de se dégager de l'emprise des Américains et des sionistes.
Merci, monsieur Luc Michel. Monsieur Ahmad Rami, donc, à l'heure actuelle, la Tunisie a décidé d'accueillir le Front Polisario. En faisant ça, il a abîmé ou encore fragilisé énormément ses relations avec le Maroc. Vous ne voyez pas en là une manière de la Tunisie de suivre la voie algérienne et de faire de l'Afrique du Nord une voie d'Afrique du Nord avec une protection de la Méditerranée, surtout, qui est une zone extrêmement importante à l'heure actuelle?
Écoutez, la force de l'entité sioniste, de l'occupation sioniste israélienne, c'est notre faiblesse, la faiblesse des Arabes et des musulmans, qui sont désunis, qui ne sont pas unis. Donc, c'est Israël, les États-Unis et ses marionnettes, Israël et ses marionnettes, les États-Unis et le régime marocain, qui essayent de diviser les pays arabes, les gouvernements arabes, donc d'augmenter la force d'Israël. Parce que ce n'est pas Israël qui est fort, c'est nous qui sommes faibles. Et notre faiblesse vient de que nous avons des régimes qui appliquent la stratégie israélienne, c'est-à-dire la division des pays arabes et des gouvernements arabes, au lieu de former une unité face à l'occupation et à la domination d'Israël. Donc, diviser le Maroc ou diviser l'Algérie ou diviser la Tunisie, ça ajoute à la faiblesse de nos pays, parce qu'il n'y a jamais eu dans le Sahara un État. Donc, vouloir diviser le Maroc, créer un État au Sahara, c'est comme si vous voulez diviser l'Égypte ou diviser la Syrie ou diviser l'Irak. À quoi profite cette division? Créer un État supplémentaire en Égypte ou un État supplémentaire en Libye ou en Tunisie ou en Algérie, ça profite seulement aux ennemis de nos pays. Et notre force vient de notre unité. Le Maroc, moi je défends l'unité de l'Algérie. L'Algérie doit être unie. Tout autre pays qui veut, par exemple, séparer une région de l'Algérie pour en former un État, au Sahara algérien par exemple, c'est une idée fausse, c'est une idée folle qui vise à affaiblir l'Algérie. Et affaiblir l'Algérie, c'est affaiblir le monde arabe et le monde musulman face à Israël.
Je comprends bien.
Vouloir diviser le Maroc, c'est vouloir affaiblir le Maroc, c'est-à-dire affaiblir un État musulman.
Je comprends bien, monsieur Ahmad. Je comprends bien, monsieur Ahmad Rami. Mais la différence, c'est que pour le Front Polisario, ça fait des années, voire plusieurs générations, qu'ils en demandent. Avant, le Maroc, c'était l'Espagne. Ils ont toujours réclamé historiquement leur indépendance, se présentant comme un peuple uni des gens ayant été un peuple. Je veux dire, il suffit aussi de regarder les Twitter à l'heure actuelle depuis 6 mois à 1 an. Eh bien, ce n'est pas seulement les chefs de parti du Front Polisario qui commente, c'est également le peuple sur ce territoire de Sahara occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, monsieur Luc Michel? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des propos tenus par monsieur Ahmad Rami, qui explique que diviser le Maroc est un front de division réalisé par le régime sioniste, mais encore plus loin, qu'il n'y a pas réellement de front Polisario, parce que plus ou moins c'est ce qui est dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos?
Je suis une fois plus en désaccord. C'est une vision paranoïaque de la question sahraoui, et vouloir que le Sahraoui fasse partie du Maroc, c'est renforcer justement les plans des sionistes dans la région. Je suis un défenseur depuis plus de 50 ans de l'indépendance du Sahara espagnol, qui est le dernier territoire colonisé en Afrique. Je soutiens la position de l'Algérie. Dès les années 60, les Soviétiques et aujourd'hui Moscou soutiennent les Sahraouis. Dans tous les combats que j'ai menés d'ailleurs, la délégation du Front Polisario en Russie soutenait ces combats. Je suis donc pour une indépendance du Sahara espagnol, comme le défend Alger, maintenant la Tunisie, comme le défendait hier Kadhafi. Vouloir que le Sahara, la République sahraoui, fasse partie du Maroc, c'est exactement le plan des Israéliens.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, l'autre sujet de cette actualité, ce n'est pas seulement la position du Maroc par rapport au Sahara occidental, du Front Polisario, ce n'est pas non plus la Tunisie qui décide de faire un pas vers cette politique d'indépendance, c'est aussi la Méditerranée, c'est aussi le port de Darla, c'est aussi de la géopolitique. Qu'est-ce que vous avez à dire, Monsieur Ahmad Rami, donc directeur de Radio Islam en Suède, sur le sujet du front géopolitique à l'heure actuelle qui se passe en Méditerranée? On pense au gaz, on pense à l'énergie, on pense à ce qui s'est passé depuis un an. On pense également, il y a un lien direct avec la guerre en Ukraine également, puisque l'Europe est en manque d'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas une avancée dans ce sujet-là, en pensant au port de Darla? Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir là-dessus?
Oui, moi je peux dire que la question centrale pour juger toute politique, c'est actuellement la question palestinienne. Il faut savoir de quel côté se pose chaque pays ou chaque gouvernement pour juger de sa politique. La République islamique d'Iran est le seul pays, seul gouvernement aujourd'hui qui a sérieusement compris le sujet et qui soutient la justice dans la région. Et la République islamique d'Iran soutient la question palestinienne et contre l'occupation sioniste de la Palestine. Et je crois que tous les pays arabes et musulmans devaient avoir la même attitude que la République islamique d'Iran, c'est-à-dire soutenir la résistance palestinienne.
Mais récemment, cette résistance palestinienne, lors de l'indépendance, lors de la célébration de l'indépendance de l'Algérie récemment, donc l'Algérie a invité des membres de la résistance palestinienne pour son défilé. C'est un acte quand même extrêmement fort. Juste après, maintenant, la Tunisie fait un pas vers la politique algérienne concernant le Maroc, parce que c'est en donnant d'accord avec le Front Polisario, vu qu'à l'heure actuelle les tensions existent entre le Maroc et l'Algérie à cause des frontières, à cause du Front Polisario. Vous en pensez quoi? C'est pas un pas vers la Palestine? C'est pas un pas vers une séparation de ce régime d'occupation?
Disons, le régime de l'Arabie saoudite et même Mahmoud Abbas en Palestine ont des relations avec Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la résistance. Au contraire, ils veulent utiliser seulement tous leurs moyens pour soutenir l'occupation et gérer l'occupation. Donc, il faut savoir que la résistance doit être globale. Le régime, par exemple, algérien aujourd'hui, au lieu de soutenir l'unité du Maghreb, ils ont détruit l'unité du Maghreb. Aujourd'hui, ce que Israël veut, c'est que les pays maghrébins s'entretuent, font la guerre entre eux au lieu de les unir. Donc le régime, disons, colonialiste considérait l'Algérie comme un territoire français, comme faisant partie de la France. C'est pour ça qu'ils ont agrandi l'Algérie jusqu'à ce point où il est maintenant. Et quand la France a quitté l'Algérie, le colonialisme, comme au Maroc, ils ont laissé leurs militaires pour gérer le colonialisme, le nouveau colonialisme, par le régime qui a, en réalité, au lieu de faire la révolution algérienne, ils ont transformé la révolution algérienne en un coup d'État, en renversant le président Boumediene, le président Ben Bella, en 1965. Les gouvernants d'aujourd'hui d'Algérie, ils ont massacré l'unité arabe au Maghreb, et ça c'est pour soutenir Israël. Le régime marocain aussi, c'est un régime sioniste. Donc ces deux régimes-là, le régime marocain et le régime algérien, en réalité collabore secrètement pour appliquer la politique israélienne de division et d'affaiblissement des pays arabes.
Merci, Monsieur Ahmad Rami.
En les séparant.
Merci, Monsieur Ahmad Rami. Est-ce que vous voulez dire, je voudrais quand même rajouter que l'Algérie a envoyé plus de 100 millions de dollars pour résoudre le problème du Sahel. En faisant quoi? En provoquant du travail, en provoquant des industries dans le sud de l'Algérie, ce qui est peut-être méconnu à l'heure actuelle. Mais l'Algérie a également été face à ce qui se passait en Libye avec ses frontières, a également des terroristes qui ont été, qui il y a plusieurs années, maintenant c'est fini, par rapport au territoire tunisien. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord du fait de dire que l'Algérie à l'heure actuelle, je ne parle pas de l'Algérie d'époque après la colonisation ou même d'il y a 10 ans avant, mais l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de ces 3 dernières années, est-ce que vous soupçonnez qu'il y a derrière le régime sioniste, comme vient de l'indiquer Monsieur Ahmad Rami?
Je vous ai dit que je ne partage pas du tout les positions. Depuis 60 ans, l'Algérie a une attitude arabe exemplaire et une attitude antisioniste exemplaire. Encore aujourd'hui, le centre de la résistance à la participation d'Israël comme État observateur à l'Union africaine, c'est l'Algérie. L'Algérie a toujours défendu les Palestiniens et la cause arabe. Et je ne partage pas les critiques pour l'Algérie. Il faut au contraire soutenir l'Algérie. L'hostilité d'ailleurs des Américains et des Israéliens à l'Algérie, elle s'exprime à travers toutes les opérations géopolitiques américaines, notamment le printemps arabe à partir de 2011, dont la principale cible, la toute première, n'était pas la Tunisie d'ailleurs, mais l'Algérie. Encore aujourd'hui, l'Algérie a une attitude exemplaire. D'autre part, il y a en géopolitique une lutte pour le contrôle de la Méditerranée occidentale qui oppose les Américains et les Russes. Le principal allié de la Russie, c'est l'Algérie. Je ne peux donc que soutenir les Algériens.
En effet, on n'oublie pas que là, cet été, au mois de juin, il y a eu les clubs de Méditerranée, les Jeux de Méditerranée. C'est l'Algérie à Oran qui a accueilli ces Jeux et Israël n'était pas invité parce que l'Algérie a toujours indiqué que tant que la Palestine ne faisait pas partie, n'avait pas le droit à son État, eh bien tout simplement, en tout cas reconnu par les pays qui ne le reconnaissent pas encore pour l'instant, eh bien l'Algérie ne compterait pas, n'accepterait pas l'adhésion de l'État d'occupation dans les Jeux de Méditerranée. Il y a quand même beaucoup d'actes à l'heure actuelle qui montrent une Algérie résistante, patriote. Vous venez de parler, Monsieur Luc Michel, de ce qui se passait en matière d'énergie. On pense notamment au gazoduc que les Israéliens souhaiteraient mettre en place, mais dont l'opposition algérienne est extrêmement forte.
Écoutez, dans la guerre du gaz qui est enclenchée, les Algériens sont du côté des Russes. On vient encore de le voir avec la visite de Macron. Macron a fait beaucoup de propagande en Algérie, mais il n'a rien obtenu en réalité. Les Algériens n'augmenteront pas leur production pour se substituer à la Russie. C'est cela qu'il faut retenir. Il faut au contraire se réjouir de voir un certain nombre d'États aujourd'hui, la Tunisie rejoindre la position de l'Algérie, etc., et s'opposer aux Israéliens, aux Américains, qui sont en train de perdre stratégiquement la partie. Le Maghreb est en train d'échapper des mains américaines et des mains de l'OTAN. C'est cela qu'il faut retenir. Toute position qui vise à critiquer l'Algérie, à critiquer la Tunisie dans leur position, évidemment, pour pas les signes, ça contribue à renforcer l'Israël.
Merci, Monsieur Luc Michel. Un résumé pour ce qui se passe. Quelle est votre projection, en quelques mots, s'il vous plaît? Quelle est votre projection, Monsieur Luc Michel et Monsieur Ahmad Rami? D'abord, Monsieur Luc Michel, concernant donc cette situation méditerranée, un pas vers la résistance ou un pas vers les États-Unis avec notamment le port de Darla, le gazoduc israélien?
Écoutez, stratégiquement, les Américains sont en train de perdre du terrain dans le Pacifique, en mer Noire et en Afrique du Nord. Et bien entendu, il faut constater que le Maghreb est en train de leur échapper des mains. La Tunisie, qui était la principale conquête américaine en 2011, est en train de leur échapper des mains. La réforme constitutionnelle critiquée par le département d'État a été très révélatrice à ce sujet. Et bien entendu, je pense que cette tendance va continuer à se développer, d'autant plus qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la Russie au Proche-Orient n'est plus dans une position de neutralité bienveillante vis-à-vis des Israéliens. Elle est aux côtés de l'Iran, elle est aux côtés du Hezbollah, elle est aux côtés des Palestiniens.
Merci Luc Michel, merci M. Ahmad Rami. Malheureusement, le débat prend fin. Notre débat a été riche en conclusions, en informations. Il y a eu des contradictions, mais c'est ça, un débat. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Au prochain programme Débat après Stevie, ici à Téhéran.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 17e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. La peur est associée au désespoir et la honte est associée à la privation. Les opportunités passent vite comme des nuages. Alors saisissez les bonnes opportunités et utilisez-les avant qu'elles ne soient perdues. Cette maxime de la voix de l'éloquence du vénéré imam Ali béni soit-il, comme d'autres sentences du premier imam des chiites, contient des leçons très précieuses. Dans cette maxime, le vénéré imam Ali béni soit-il indique certaines causes majeures de la privation pour les êtres humains. L'un de ces facteurs est la peur. Là où l'imam Ali béni soit-il dit « la peur est associée au désespoir ». La peur est une émotion ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Elle est un instinct de conservation provoquée par l'analyse du danger, et elle permet au sujet de le fuir ou de le combattre. Par définition, la mort est l'objet de peur par excellence, en tant qu'incarnation même du danger. Il s'agit donc d'une peur très commune, mais pas universelle. Nombre de cultures échappant à la peur de la mort, par le recours à la croyance d'une vie après la mort, mais en craignant ce qui lui succède, c'est-à-dire le jugement ou l'enfer. Bien sûr, la peur des facteurs et des objets dangereux est un état que Dieu a créé chez l'homme pour le protéger. Lorsqu'un incident dangereux se produit ou qu'une créature dangereuse attaque une personne et qu'elle se retrouve incapable de se défendre, la peur l'envahit et il se retire rapidement de la scène. Ou quand une énorme inondation commence et qu'une personne est sur son chemin, il a peur et essaie de se retirer rapidement. Ce genre de peur est sans aucun doute une grande bénédiction que Dieu a donnée à ses créatures pour protéger la personne des dangers. Mais ce qui fait que les gens sont privés de certaines bénédictions, c'est une peur déplacée, comme ce qui s'est passé pendant l'événement de l'Ashura à Karbala. Beaucoup ont eu peur et ont laissé seul l'imam Hussein, béni soit-il. La peur déplacée de ces gens-là les a fait se priver de la grande grâce du martyr en compagnie de l'imam Hussein et de leur honneur éternel. La honte comme la peur a deux dimensions répréhensibles et louables. Par la honte, nous entendons ici une émotion complexe résultant d'une non-conformité à certaines exigences qui peuvent être sociales, comme l'image de soi, caractéristiques physiques, maîtrise de codes culturels, ou bien une culpabilisation collective. Elle se distingue des autres émotions par sa dimension sociale, secrète, narcissique, corporelle ou spirituelle. La honte a des aspects positifs et négatifs. Elle est parfois définie comme la version sociale de la culpabilité et joue un rôle dans la phobie sociale. La honte et la pudeur sont louées lorsqu'une personne évite tout acte laid et pécheur, et ce qui est contraire à la raison et à la loi. Et la pudeur répréhensible est qu'une personne s'abstient d'apprendre les sciences et les connaissances, ou de poser des questions sur des choses qu'elle ne connaît pas, ou de rechercher la justice devant un juge. Cette négligence cause des pertes et des privations. Dans un hadith du noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, il est dit « Il y a deux types de modestie, la modestie sage et la modestie insensée. La modestie sage vient de la connaissance et la modestie stupide vient de l'ignorance. » Dans la dernière phrase de cette maxime du vénéré imam Ali béni soit-il, il est dit « Les opportunités passent vite, comme des nuages. Alors saisissez les bonnes opportunités et utilisez-les avant qu'ils ne soient perdus. » Opportunité signifie préparation complète de bons outils. C'est comme fournir toutes les conditions préalables à quelqu'un pour étudier les sciences. Cela signifie une personne. Il est en bonne santé physique, a une bonne intelligence et du talent, un enseignant digne qui est prêt à lui enseigner et un bon environnement éducatif est à sa disposition. Et puisque l'opportunité est une combinaison de plusieurs facteurs et que chacun de ces facteurs peut disparaître en raison du moindre changement, toute l'opportunité est perdu. En tout cas, tous les dons divins qui sont donnés à l'homme dans ce monde, tels que l'opportunité de la jeunesse, la santé, la sécurité, la disponibilité de l'âme et de l'esprit, mais aussi la vie de l'homme, sont toutes très éphémères et nous devons les considérer comme du butin. Et il faut en profiter, sinon ce sera un triste résultat.